Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord Nouméa, observateur attentif au combien de l'actualité politique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que le ministre des Outre-mer est sur le territoire depuis bientôt une semaine et que les négociations sur l'avenir institutionnel ont débuté mercredi. D'ailleurs, tout de suite, Harold Martin, est-ce que vous êtes satisfait que les discussions sur la recherche d'un accord aient enfin débuté et que tout le monde soit autour de la table, que tout le monde ait accepté d'y participer ?
Oui. Alors d'abord, je veux bien repréciser, je l'ai déjà dit, mais je reprécise. Moi, il ne m'appartient pas de porter des avis, des opinions sur les discussions. J'y participe pas, je sais pas. Et puis, je laisse les élus libres de leur action. Je veux pas parler de ça. Moi, j'ai une responsabilité en tant que signataire de l'accord de Nouméa. Alors, évidemment, quand un Valls vient dans le pays avec ce qu'il prononce, ça m'excite. Parce que l'accord de Nouméa, c'est évidemment pas ça. Alors, il a mis aujourd'hui tout le monde autour de la table. Mais la première des choses qu'il faut dire aux Calédoniens, qui est un constat très clair, j'invente rien, c'est que Valls a été nommé le 23 décembre. La situation calédonienne comme est urgente, tout le monde le sait, tout le monde le dit, il le répète d'ailleurs lui-même. Il vient ici le 22 juillet. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant...
Non, pas le 22 juillet quand même, le 22 février.
Le 22 février. Février, juillet, février...
Il m'énerve. C'est un peu plus court là quand même.
Parce qu'il m'énerve, alors je mélange, oui. Bon. Il vient donc 2 mois après. Mais pour quelle raison? Il s'est passé quoi pendant 2 mois? Alors, au bout du premier mois, c'est-à-dire fin janvier, le Premier ministre a invité tous les Calédoniens à venir à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé, Valls, à parler. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Moi, je sais ce qu'il a fait. Il a téléphoné. Ça prend du temps de téléphoner.
Il s'est occupé de Mayotte aussi.
Oui, il a été une fois à Mayotte, mais il n'y a pas que lui qui s'est occupé de Mayotte. Et puis le dossier, c'est pas lui qui le dresse, c'est les services du Premier ministre. Bon. Il a été une fois, il n'est pas resté longtemps. Hein. Non, mais il a téléphoné, il a passé beaucoup de temps à téléphoner. À qui? À l'UC, à FNLKS. Pourquoi? Parce que pour qu'ils viennent à Paris. Alors, vous savez, quand vous téléphonez comme ça à l'UC, à FNLKS, qui ont bien l'habitude de ce genre de négociations, pour qu'il y ait un deuxième appel, il faut en lâcher un peu. Et on a vu quoi? On a vu que, franchement, Valls, ça commence comme ça. Il est sous le joug de l'UC, à FNLKS. Puisque qu'est-ce qui se passe? L'UC, à FNLKS dit... Je vais à Paris si je parle que de l'indépendance avec l'État, et puis je veux qu'une bilatérale, et puis rien d'autre, les autres, je ne veux pas les voir. Extraordinaire. Et bien Valls, il dit oui à ça. C'est-à-dire qu'ils vont tous à Paris. Pour quelle raison? Valls les voit tous, mais jamais ensemble, alors que tous les autres voulaient bien discuter, tous les autres, y compris le Palika, nos élus, etc. Parce que Lucie avait dit non, donc on ne parle pas. Sous le joug. Mais comment un ministre d'État de la République peut être sous le joug? C'est un premier élément. Alors après, on peut encore en rajouter, mais ce que je n'arrive pas à admettre dans cette situation, c'est que, en 50 ans de politique, j'ai toujours vu dans ces occasions-là à Paris, le préfet de la République, le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, présent à Paris. Il faut bien qu'il suive tout ça. Eh bien, il n'était pas invité.
Pendant la phase des discussions bilatérales.
Oui, quand ils ont tous été là. Il n'était pas invité. Et pour quelle raison il n'était pas invité? Parce que Lucet ne voulait pas. On en est là avec Valls. Et lui, il est ministre d'État. Attendez, c'est insupportable.
Depuis quand même, tout le monde salue comme un succès le fait que, depuis mercredi, d'ailleurs, il ait réussi à mettre tout le monde autour de la table, là. L'UCFLNKS est venu, a accepté de discuter. C'est pas un succès pour vous, quand même?
Ah, c'est formidable pour les Kanaks indépendantistes de l'UC et du FLNKS. C'est formidable, parce qu'ils ont tout gagné. Parce que, eux, ces gens-là, ils ont le mérite d'être clairs. Moi, je me souviens bien qu'ils n'ont pas accepté le résultat des 3 référendums. C'est insupportable parce qu'ils avaient bien signé un accord en toute connaissance de cause. Ils n'ont rien accepté. Ils l'ont dit. Ils n'ont pas eu peur de le dire. Même pas besoin de se justifier. Et puis ensuite, le processus a continué, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils allaient tout casser, ils allaient tout brûler. Ils ont fait des vidéos, ils ont fait tout ça. Et ils l'ont fait le 13. Le 13 mai, ils l'ont fait. Voilà. Ils sont clairs. Et ensuite, ils ne veulent ne parler que de la dépendance. Kanak est socialiste. Et donc, s'ils sont venus autour de la table, c'est bien qu'ils ont eu... Alors, c'est même plus des promesses qu'il fait Valls. C'est fini, les promesses. Il va au-delà. Il fait des déclarations publiques parce que les gens de l'UC ne sont pas dupes. Ils connaissent le baratin des ministres, évidemment. Donc, ils veulent des faits. Alors, regardez comment ils pratiquent. C'est très clair. Alors, d'abord, il fait un article dans Le Monde. Parce qu'il faut qu'il donne des gages. Il fait un article dans Le Monde. Et il dit que l'accord de Nouméa, c'est la trajectoire vers la souveraineté pleine et entière.
Qui va de la souveraineté partagée à la souveraineté pleine et entière.
Oui, ça veut dire ça. Alors, souveraineté pleine et entière. Et alors, ça m'énerve d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'à dire tout simplement indépendance, il n'y a pas besoin de racheter indépendance entière et je ne sais pas quoi. C'est l'indépendance. C'est un... Mais comme à l'UC et la FNCAS, ils ne veulent plus du mot indépendance, bah, le ministre, il suit. Voilà, maintenant, c'est la souveraineté.
Mais depuis qu'il est là, on l'a interrogé à plusieurs reprises sur cette petite phrase. Il n'a pas levé les ambiguïtés, selon vous, c'est vraiment sa conviction?
Ah non, mais je vais vous dire, c'est ça qui est intéressant. Et c'est-à-dire que, alors, il nous a dit ça. Donc, selon lui, l'accord de Nouméa débouche sur l'indépendance. Faut pas me dire ça à moi, quoi. Faut pas me dire surtout ça pas ça. Moi, j'aimerais bien avoir un débat avec lui. D'ailleurs, vous pouvez pas organiser un débat avec ce garçon.
Bon. Il est très occupé.
Ouais, oui, ben c'est sûr. De toute façon, les signataires de l'accord, ils existent toujours pour un certain nombre d'entre eux. On va pas les voir. Bon. Alors ensuite, vous voyez bien le scénario. Il dit ça à Paris. Il arrive à Nouméa et il va au Sénat coutumier. Et là, il dit le peuple premier. Le peuple premier. Voilà. Alors, c'est pas par hasard. Le peuple premier, personne n'a utilisé cette expression-là. Il l'utilise pas par hasard. C'est pourquoi? Parce que quand vous dites la pleine et entière souveraineté, comme il dit, ou l'indépendance plus le peuple premier, c'est-à-dire le peuple kanak, ça veut dire indépendance kanak et socialiste. Il nous l'a fait. Il nous l'a fait en décomposé. Voilà. Et alors ensuite, comme il fallait que ça soit encore plus clair, parce qu'il faut qu'il donne des gages, alors il va au VA. Alors là, au VA... Je vous lis la phrase, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on dise que je l'ai transformé. Voilà, je vous la lis. Quand il est à Ouvéa, c'est-à-dire, il n'est pas, pas à Dabéa, non, il est à Ouvéa, à Ouvéa. Enfin, il va passer, il y va rapidement à Ouvéa, le lendemain de son arrivée. Et là-bas, il dit, il y a un peuple premier, il y a un peuple kanak, qui doit aller jusqu'au bout de son émancipation. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, il continue en disant, et nous devons terminer la décolonisation. Ben ça, je suis désolé, ça veut dire indépendance kanak et socialiste, voilà. Alors, dans ces conditions-là, eh ben, les gens du C et du FNLKS, parce que je vous dis, ils sont clairs, ben, ils sont autour de la table, puisqu'il leur a promis l'indépendance kanak et socialiste. Alors maintenant, il faudra voir dans les modalités, voilà. Mais en plus, vous l'avez constaté certainement mieux que moi, il a fait des déclarations sur les médias, alors, NC Première, vous, et puis Gido.
Et Calédonia,
mais à chaque fois, il dit des choses différentes, c'est-à-dire que quand il est à Harbé, il dit des choses... Pour essayer d'amadouer ceux qui veulent rester dans la France. Et puis quand il est sur Radio Jido, bah là il va dans le sens de l'indépendance kanak et socialiste, etc. Alors quand il est allé sur Radio Jido, sur NC Première, vraiment il n'était pas en forme. Hein. Oh là là, c'était assez laborieux, puis il n'avait rien à dire. C'est-à-dire qu'il a été formé par Krishna avant de venir, mais trop peu de temps. Donc il n'a pas bien attraper le rythme de la logorée de Christnacht.
Ouais. Donc, vous n'êtes pas surpris donc, que le FLNKS, enfin l'UC-FLNKS, le nouveau FLNKS, on ne sait plus trop comment l'appeler, ait accepté finalement de venir autour de la table. Ils avaient dit qu'ils ne parlaient que de pleine souveraineté, qu'ils ne voulaient parler qu'avec l'État. Là, ils ont accepté quand même ce qu'on appelle les trilatérales, en tout cas des discussions auxquelles participent aussi les partisans de la France.
Oui.
Ça ne vous étonne pas, ce changement d'attitude quand même? Est-ce qu'il n'est pas à mettre au crédit du ministre des Outre-mer?
Non, mais attendez. Il parle du lien avec la France. Ça veut dire quoi? Si c'est un lien avec la France, c'est que vous n'êtes plus dans la France. Si vous êtes à côté, il vous faut une corde pour vous relier le lien, vous n'êtes plus dans la France. Ça va dans le sens de qui? Certainement pas de nous. Voilà. Il parle du corps électoral. Elle est bien bonne. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit sur le corps électoral, mais elle est bien bonne. Le corps électoral, ils veulent qu'il soit gelé pour l'éternité. Maintenant, c'est clair, c'est pour l'éternité. Et puis, etc., etc. Alors, les formules, pardonnez-moi, Elisabeth, mais les formules à la con des socialistes. Alors, il faut faire peuple, etc. Enfin, c'est du délire, tout ça. Ce sont des mots, voilà, ce sont des mots.
Et l'attitude de l'UC, encore une fois, vous pensez qu'ils ne sont pas allés autour de la table pour négocier avec les partisans de la France, que... Il n'y a aucun pas qui va être fait de leur part, il n'y a pas de véritable volonté de rechercher un consensus, un compromis?
Mais avec l'UC, c'est très clair. L'UC fait des KS. Hein. Je veux dire pourquoi. Eux, ils sont très clairs. Ils veulent bien discuter avec tout le monde, à condition que vous y alliez dans l'autre sens. Mais il faut bien comprendre, l'UC et FNKS, c'est quoi aujourd'hui? L'UC nous l'a dit publiquement, il y a un certain nombre de mois maintenant, qu'elle formait un bras armé de la CCAT. C'est les responsables de l'UC qui ont dit ça. Former un bras armé de la CCAT. Ensuite, on a vu tous les élus de l'UC, les principaux, derrière la CCAT. Ensuite, on a vu quoi? On a vu la CCAT tout démolir. Tout démolir. On n'a jamais vu les leaders de l'UC aller à l'encontre, condamnés. Non, jamais. Jamais. Donc aujourd'hui, l'UC est aux mains de la CCAT, son bras armé. Et ceux qui sont derrière et qui suivent, bah, c'est des complices voire, selon la bonne expression du procureur de la République,
Des commanditaires.
Des commanditaires, voilà, le mot m'échappait. Des commanditaires, voilà. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le président de la CCAT, c'était Théa. Voilà. Théa est en prison, mais il a été nommé président du FNLKS. C'est pour ça que je relis bien les choses. UCFNLKS, voilà. Donc, c'est-à-dire que ce sont les durs, la CCAT, qui ont pris le pouvoir. Et avec tout ce qu'ils ont fait, ils ne vont pas s'arrêter en cours de route. Ils ne vont pas s'arrêter en cours de route. Alors, s'il y a un ministre qui leur dit, mais bien sûr, j'allais dans votre sens, vous allez voir l'indépendance canaque et socialiste, vous le peuple premier, les cas. Ben, ils auraient tort de ne pas se taper sur le ventre et aller faire leur tour à Bosaria. Mais ça ne changera rien. Alors, les lendemains risquent d'être difficiles. Parce qu'à un moment donné, il y a un jeu de dupes, là, quand même. Il y a bien un jeu de dupes. Donc, à un moment donné, les uns et les autres vont se réveiller, quoi. Voilà. Et puis, quand même, pour finir, parce qu'ils m'ont donné l'opportunité là, sur les commanditaires.
La justice fait son travail, vous ne pensez pas qu'elle va continuer à aller au fond de l'affaire quand même ?
Ah non.
Depuis le 13 mai...
La justice, elle a été remarquable. La justice a été remarquable. Elle a fait son travail dans des conditions extrêmement difficiles, avec moins de magistrats, les magistrats qui étaient quand même contraints. Moi, je comprends que les uns et les autres avaient peur. Ils auraient pu prendre un coup de fusil, ils auraient pu prendre tout ça. Hein. Ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont fait le travail avec un procureur de la République remarquable, avec un procureur général remarquable. Ils ont fait le travail. Et c'est bien le procureur de la République qui est venu souvent sur votre plateau, qui a parlé des commanditaires. C'est lui qui a mis cette expression sur le tapis. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il en a parlé à chaque fois du dossier des commanditaires. Il a dit on constitue le dossier, etc., etc. Et ensuite, j'ai noté à trois reprises, il a dit le dossier des commanditaires est bouclé, il y a tout dedans. Donc normalement, il aurait dû passer à l'instruction. Et les commanditaires, bah, c'est les leaders de l'UC. Qui ont créé la CCAT, qui ont été complices, qui ont donné les instructions, etc., ils auraient dû se retrouver d'abord en garde à vue, etc., etc. Et ça n'a pas suivi. Et pourquoi ça n'a pas suivi ? Ben, parce qu'évidemment, l'État veut discuter avec eux pour trouver un accord. Alors, ce n'est pas le moment de les mettre en prison, évidemment. Voilà. Mais en tout cas, le dossier y vit. Et moi, j'ai trouvé quand même que le procureur de la République a été extrêmement clair, et il faut le remercier, en disant bien que le dossier était prêt, en disant bien que voilà. Alors, autrement dit, cet État français, de temps à autre, moi, il m'énerve, j'ai le dire, parce que pourquoi ? Parce qu'il va nous dire, vous allez passer un accord avec des gens qui devraient être en prison parce qu'ils ont tout cassé. Ils n'ont pas cassé un peu, ils ont cassé beaucoup, c'est énorme ce qu'ils ont cassé. Et aujourd'hui, on nous dit, ah ben, il faut discuter avec eux, puis vous allez discuter avec eux. Alors, moi, je ne suis pas élu, heureusement, hein, d'ailleurs, heureusement que je ne suis pas élu, hein, voilà. Non, mais c'est quand même insupportable, insupportable. La justice, elle est pour tous, la justice. Et d'ailleurs, la justice le dit, voilà. Alors maintenant, ils ont fait mieux pour des raisons X et Y, ils ont délocalisé le dossier à Paris. Alors peut-être que là-bas, il sera moins chaud, au tribunal de Paris, ils le garderont en soute, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà.
Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. UCFNLKS voulait que son président nommé, Christian Théin, soit présent pour les négociations. Bon, ce n'est pas le cas, quand même.
Oui, mais n'empêche que M. Valls, je le sais, il parle de visio, visioconférence. Vous voyez un peu, il essaye de faire accepter aux uns aux autres une visioconférence avec Théa. Non, mais c'est, on va loin. Hein. C'est-à-dire que Valls, quand même, je ne comprends pas comment il peut être ministre d'État. Hein,
vous voilà. Pensez que c'est quelque chose qui pourrait être effectif, qui pourrait se réaliser ? C'est quelque chose que vous craignez qu'on en arrive là ?
Quand on voit les propos de Valls, ben moi, je m'attends à tout. Alors, est-ce que ça me fait peur ? Pas du tout. Je rigole. On en a maté des plus durs que lui. Hein. Ouais. Parce que, je vais vous dire, Elisabeth, quand je vois Valls aujourd'hui faire, je dis, mais c'est quoi ? C'est Pisani. Mais c'est exactement comme Pisani. Alors, peut-être que...
Les plus jeunes ne peuvent pas connaître.
Oui, voilà.
Pisani, c'est il y a 40 ans.
Mais c'est intéressant comme histoire, parce que ça va peut-être rassurer les Calédoniens, ce que je raconte. Il a le comportement de Pisani. Pisani est un gaulliste de gauche que Mitterrand avait envoyé ici parce que ça chauffait, c'était les événements 84, début 85. Voilà. Et quand Pisani il arrive, Machoro abat le jeune Tual et donc les Calédoniens se révoltent. Ils manifestent toute la nuit, ils cassent les grilles du Haussaré, etc. D'ailleurs, Pisani part dormir en mer sur un bateau de la marine qui était, il me semble, la Jeanne. Enfin, voilà. Et puis ensuite, parce que ça prend des proportions en métropole. Et pourquoi ça prend des proportions en métropole ? Parce que Jacques Lafleur a réussi à fédérer toute la droite, le centre, etc., contre les socialistes qui mènent cette politique en Calédonie, avec Chirac, bien sûr, mais avec Pasqua, etc. Quoi, voilà. Et donc, Mitterrand est agacé, donc il vient ici, et on se révolte le jour où il vient, pacifiquement, intelligemment. C'est-à-dire qu'on est 30 000 dans les rues de Nouméa, en bleu, blanc, rouge. 30 000, voilà. Et on occupe partout, on casse rien, autour du Haussaria, etc. Sauf que Mitterrand, il ne peut pas sortir du Haussaria. Ses ministres, Jocques, etc., ils ne peuvent pas sortir du Haussaria. Eh bien, okay, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mitterrand, l'après-midi, il a repris l'avion, il est reparti à Paris. Quand il est arrivé à Paris, il s'est occupé tout de suite de la promotion de M. Pisani. Il s'est retrouvé dégagé sur Paris, ministre de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Ça a duré 3 semaines. Ensuite, il a disparu. On l'a retrouvé bien plus tard président de l'Institut du monde arabe. Mais c'est ça qui va lui arriver à Valls. Et je peux bien vous expliquer pourquoi. C'est ça qui va lui... Parce que son truc, ça ne tient pas la route. Moi, ça m'amuse parce que c'est pas comme ça que peut se régler l'affaire de la Calédonie.
Justement, vous parlez d'un jeu de dupes pour les négociations qui sont ouvertes mercredi. On a entendu le ministre des Outre-mer affirmer à plusieurs reprises qu'il faut un accord. C'est pas une option, c'est une obligation. Il faut un accord pour assurer le développement économique. Il faut un accord pour éviter les affrontements. Est-ce qu'il a pas raison? Est-ce qu'il faut absolument un accord ou non?
Alors, s'il faut absolument un accord, là, dans le contexte d'aujourd'hui, ça sera un accord avec une indépendance kanak et socialiste. Veut-on d'une indépendance kanak et socialiste? La réponse, elle est toute simple. Après, moi, je voudrais bien dire que je comprends ces milliers de Calédoniens qui en ont marre aujourd'hui, qui vivent dans la difficulté, la reconstruction, ça démarre pas, les sous, ils arrivent, oui, mais péniblement. Et donc, les gens veulent en finir. Mais pour autant, il ne faut pas non plus couper la gorge, parce qu'on va en finir, hein, parce que l'indépendance est kanak et socialiste, on voit bien ce que ça veut dire. Parce que ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que pour les indépendantistes UCF et NKS, l'indépendance, c'est pas le fond de l'affaire, c'est le pouvoir. C'est pour ça que le mot, tout d'un coup, peuple premier est revenu, là, peuple premier, parce que je suis kanak, je suis du peuple premier, je suis le premier habitant, le droit inné actif à l'indépendance, comme disait Thibaou, avec le droit du premier occupant, ça se termine comment? Par le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt à accepter que M. Forest soit président du gouvernement, que Omera Nesline soit ministre des Affaires étrangères? Puis, voilà, la question, elle est là. Voilà. Alors, mais c'est effectivement problématique, parce que pour nos élus, c'est très très difficile. Hein. Faut vraiment qu'on soit... tous unis derrière nos élus. Pourquoi? Parce qu'on leur met le couteau sous la gorge. On leur dit, mais attendez, si vous refusez un accord, vous êtes responsable devant les Calédoniens que l'État ne donnera pas d'argent. L'État ne donnera pas d'argent. Vous serez responsable de ça. Vous irez expliquer aux Calédoniens que, ben, comme vous n'avez pas été d'accord, il n'y a pas d'argent pour personne. Mais ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Je vous dis, ça m'amuse. Je peux vous expliquer pourquoi. C'est très simple.
Il n'y a pas de chantage. Selon vous, l'État, de toute façon, va venir en aide économiquement à la Nouvelle-Calédonie. Ça a été dit plusieurs fois. Il y a déjà le prêt là, qui vient d'être voté dans la loi de finances. Oui. Donc, il y aura cette aide économique qui permettra quand même à la Calédonie de redémarrer.
Non, mais parce que Valls, il dit ça.
Même s'il n'y a pas d'accord.
Non, mais alors, s'il n'y a pas d'accord, et que si, imaginez que Valls, il part fâché, mauvais comme une gale, parce qu'il n'a pas réussi, parce que ce sera ça, voilà. Eh bien, vous allez voir quand j'arrive à Paris. Mais quel pouvoir il a, Valls? Mais rien. Valls, c'est rien. Je ne veux pas dire que c'est un imbécile. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poids politique. Est-ce qu'il a un parti politique? Est-ce qui le soutient? Mais qui? La dernière fois qu'il s'est présenté aux élections, c'était en Catalogne. Non, c'est vrai qu'il a eu...
Législatives également.
Les dernières législatives, il s'est présenté au titre des Français de l'étranger dans une circonscription que lui avaient donnée les macronistes, qu'il ne pouvait pas perdre, il a perdu quand même. Bon. Mais ce n'est pas lui qui décide des sous. Il y a une ministre du budget et des comptes publics qui est très bien, qui est d'ailleurs une amie, je le dis, de Nicolas Metzdorf. Il y a un premier ministre, un ministre de l'économie, qui est très proche de Macron d'ailleurs, qui a reçu notre président du gouvernement et qui a été très clair avec lui. C'est pas lui qui décide de tout ça. C'est du bluff. Mais moi, vous savez, je vais vous dire, je suis très optimiste pour l'avenir, toujours. Pourquoi? Parce que, je vous dis, c'est Pisani. Vous vous rendez compte, c'était 40 ans. 40 ans, est-ce qu'il nous a mis dehors, Pisani? Je répète, hein, Pisani avait fait étudier par l'armée de renvoyer en métropole 70 000 Calédoniens. Il y est arrivé? Non. C'est pas le petit Valls qui va arriver aujourd'hui, hein. C'est pas possible. Bon. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on voit bien la faiblesse de Valls. Parce que, à 4 reprises, il l'a dit 2 fois publiquement et aux élus, 2 fois. Il a dit, mais attention, le dossier, c'est moi, hein. Faut pas essayer de me contourner, passer par au-dessus, etc. Ouais, c'est moi. Personne d'autre, oui. Quand vous dites ça, il y a bien une faiblesse. Et puis surtout, moi, je suis sûr de ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, le président de la République, ben, il va siffler la fin de la récréation. Et puis s'il siffle pas, ben, on l'aidera à la siffler. Pourquoi ? Mais pourquoi ?
Ben, parce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, lui, a une position différente sur la Nouvelle-Calédonie celle des membres de son gouvernement ?
Ah, mais c'est là qu'il faut avoir la mémoire. C'est là qu'il faut avoir la mémoire. Parce que Macron, on peut tout lui reprocher, mais sur la Nouvelle-Calédonie, il a été comme sur la retraite en France, il a été clair. Voilà, clair. Je l'ai dit devant votre radio, mais je voudrais le redire aux Calédoniens, parce que je suis chagriné, je vois qu'ils espèrent un accord qui n'est pas possible dans ces conditions-là. Donc, je voudrais leur redire. Il devient président de la République en 2017, le comité des signataires existe encore, dans quelques mois après son élection, il nous reçoit. Et il nous reçoit très humblement et il nous dit « Je ne connais pas suffisamment le dossier calédonien, vous m'avez informé », il donne la parole tout de suite. Quand Paul Néotine prend la parole, j'ai raconté ici, Paul Néotine, il dit « Monsieur le président de la République, on a signé un accord de décolonisation, donc ok, on ne peut pas avoir l'indépendance parce qu'on n'est pas prêt pour ça. » Puis il voulait dire, certainement pas avec les copains de l'UC, c'est ça que voulait dire, il n'a pas dit, c'est ça que voulait dire. Parce que Paul Néotine parle toujours des copains de l'UC, hein. Et parce que s'il y en a un qui a rebanté contre lui, c'est bien lui. Mais enfin bon. On ne peut pas avoir l'indépendance, on n'est pas prêt pour ça, mais au moins qu'on ait une indépendance association. Réponse de M. Macron. Il lui a dit, M. Néotine, en le regardant dans les yeux, l'indépendance association n'existe pas. Paf ! Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a jamais changé d'avis depuis. Qu'est-ce qu'il dit, Valls, là-dessus ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le président de la République est un con, il n'a rien compris ? Qu'est-ce qu'il dit là-dessus, Valls ? Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà. Et puis le président de la République, lui, il est élu. Au suffrage universel, c'est quand même autre chose, quoi. Voilà. Et il a un poids politique, un vrai poids politique. Donc il a dit ça, et ensuite il a dit quoi ? Il a dit, mais monsieur Néotine, vous êtes dans un processus, on est en 2017, hein. Vous êtes dans un processus, il y aura un référendum, je peux vous dire que si les Calédoniens votent l'indépendance, la République et moi, on mettra l'indépendance en place au plus vite. Maintenant, si les Calédoniens choisissent de rester dans la République, j'en tirerai toutes les conséquences, c'est le mot qu'il a employé, j'en tirerai toutes les conséquences, et je modifierai la Constitution pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve sa place dans l'ensemble français. C'est très clair. Il n'a jamais changé de ça. Il a répété 7 fois. Il a même dit une fois dans une réunion de l'Europe, en Espagne, c'était à Madrid, il me semble. Bon, voilà. Où il y avait les uns et les autres. Et quand il est venu ici, devant des 40 000 Calédoniens. Mais quand il dit ça, Macron, quand il est clair sur le sujet, surtout que maintenant, il y a une loi qui a été votée, qu'on a respectée, on a été jusqu'au bout, on a voté 3 fois, voilà. Il n'y a pas de raison d'aller contre la loi. Et surtout qu'il ne le pourrait pas, parce qu'il faudrait une nouvelle fois modifier la Constitution. Mais quand il dit ça, Macron, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui nous dépassent, que la Calédonie, que l'État connaît bien, et qui veut que la Calédonie reste dans la France, voilà. Le fond de l'affaire, c'est ça. Voilà.
Alors, vous en êtes à nous dire qu'il n'y a pas d'accord possible, et vous savez, vous avez conscience que les Calédoniens sont un peu épuisés, hein, 9 mois après oui. Le 13 mai. Alors comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, peut-être pour les rassurer, leur redonner un peu confiance ?
Je vous dis, à un moment donné, le président de la République va siffler la fin de la récréation, parce que ça va se passer comment, là ? Alors, admettons qu'il y ait un accord, l'accord, si l'UC l'accepte, ça va dans le sens de l'UC et de ce qu'il a dit, hein, peuple premier, souveraineté, voilà.
Mais on peut penser que dans ce cas-là, les élus partisans de la France l'accepteront pas.
Oui, mais accepteront pas, mais il peut s'en passer, parce qu'il nous méprise, Valls. Il nous méprise pourquoi ? Parce que c'est son fonds de commerce, c'est pas nous. Son fonds de commerce, c'est pas nous, voilà. Bon. Et donc, qu'il reparte avec ça, il va aller où avec ça après ? Alors. Oui, comme je parlais de Pisani, je disais, Jacques Lafleur a su mobiliser. Il appartiendra à nos élus de mobiliser. Ben d'abord, tous les poids lourds du gouvernement qui connaissent bien, comme le ministre de la Justice actuel, le Retailleau, le ministre de la Défense, etc. Et puis les macronistes, ils sont essentiellement, ils sont pour la Calédonie française, dans le plus grand nombre. On va dire, je suis généreux, 80%, mais c'est plus que ça, probablement. Et puis il y a toute la droite classique, et puis il y a le RN avec Marine Le Pen. Tout ça, ça fait une majorité, une très large majorité. Ben, il faudra que nos élus mobilisent tout cela. Et puis tous ceux qui peuvent aider dans ce sens. Par exemple, j'y pensais ce matin en venant. Oui, le Premier ministre, il a un excellent ami ici. C'est un excellent ami depuis toujours, c'est Didier Leroux. Ben, on demandera à Didier Leroux d'expliquer au Premier ministre que le Valls, il fait n'importe quoi, quoi. Voilà. Voilà. Mais alors, on n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on n'a pas un gouvernement homogène. Alors, on ne comprend pas pourquoi on pense que quand Valls y parle, parce qu'il est soi-disant ministre d'État, il parle pour tout le monde. Non. Valls, alors j'ai peut-être pas le temps de l'expliquer, mais je le dis aux Calédoniens, c'est le produit de Christnart. C'est le produit de Christnart.
Christnart, il... Vous n'en aviez pas encore parlé, ça m'étonnait.
Ben oui, c'est ça. Christnart, il a une organisation philanthropique, je vais dire, voilà, philanthropique, qui avec des hauts fonctionnaires de la France, de l'État profond, comme on dit, voilà, et ils sont mis dans la tête, par idéologie, d'arriver à une indépendance kanak et socialiste ici. Alors, comme le ministre de l'ex-ministre de l'Intérieur, qui est maintenant ministre de la Justice,
Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin, il est venu ici, il a appliqué la loi, ça a mal tourné. Alors, c'était facile de dire à Paris, non, on va mettre quelqu'un qui va les mettre dans l'autre sens, comme ça, ça va pas mal tourner, il n'y aura pas de bagarre. Oui, faut pas trop nous ignorer très longtemps quand même, hein, voilà. Parce que nous aussi, on a un pouvoir. On l'a démontré par le passé, on l'a toujours, hein, voilà, toujours. Donc, au moment où il le faudra, intelligemment, on saura se mobiliser. Et vous savez, je vais vous dire quand même, parce que je le ressens profondément. Je ressens ici qu'il y a un peuple calédonien qui s'est formé. Il y a ceux qui sont partis, puis il y a ceux qui sont restés. C'est un peuple calédonien composé des uns et des autres, des Caldoches, des Oreilles, des Wallisiens, des Javanais, des Tahitiens, enfin, de tout ce qu'on veut. Et ceux-là, ils ne sont pas prêts de partir. Et ceux-là, aujourd'hui, ils sont en train de se constituer. Alors, ils ont réagi intelligemment le 13 mai, notamment en faisant les barricades, les barrages, etc., ce qui a évité le pire, voilà. Mais l'affaire du 13 mai, elle ne recommencera pas, hein, parce que les individus, aujourd'hui, je le dis, s'organisent, ils ont raison de s'organiser, etc. Et je sens qu'aujourd'hui, ils ont bien compris qu'on a voté 3 fois pour rester français, et donc ça, c'est dans le marbre, reconnu par la communauté internationale. Mais en plus de ça, on a un droit à être français, mais on a dans cette affaire-là une reconnaissance. À l'époque de Pisani, dont je parlais, on n'existait pas, nous. La France s'en allait, on s'en allait parce qu'on était des Français, voilà. Mais il y a eu 88, la poignée de main de Jacques Lafleur et de Chibaoué et de Rocard. On a été reconnus, à ce moment-là, c'était une première reconnaissance.
Reconnu deux légitimités, qui avait des droits...
Mais c'était une première reconnaissance par la communauté internationale. C'était très, très, très important pour Jacques Lafleur. C'est pour ça que la négociation est très importante, pour arriver à cette situation. Mais ensuite, il fallait arriver à un vote. On est arrivé à un vote. Donc, le vote, on l'a gagné. Mais aujourd'hui, on a en plus du droit cette reconnaissance. Mais ça, il n'y a personne qui va nous l'apprendre. Pourquoi on viendrait nous l'apprendre? Mais il n'y a pas de raison. Moi, je serais le premier à le dire et à m'agiter le jour où il le faudra. Hein, voilà. Donc, moi, je reste tout à fait optimiste. Alors, bien sûr, faut le dire, il va y avoir encore des mois pour que tout ça avance. Bon, mais l'État, vous savez, l'État met du temps, mais c'est pas Valls qui va décider ce que l'État met ici. D'abord, c'est pas lui qui vote à l'Assemblée nationale, c'est pas lui qui vote. Voilà. Pour l'instant, ils ont mis 120 milliards. C'est pas mal, déjà. Hein, voilà.
Et puis, il y a un élément peut-être sur lequel... sur lequel on peut se concentrer un peu, c'est l'environnement international et l'évolution géopolitique du monde. Il se passe beaucoup de choses actuellement. Ouais. Le Pacifique, ça fait des années qu'on dit que ça va être le centre du monde, mais là, ça bouge. Est-ce que c'est pas aussi une opportunité pour la Calédonie ?
Alors, vous savez, il faut que nous, les Calédoniens, qui voulons rester vivre libres dans ce pays, il faut qu'on y réfléchisse beaucoup. Parce que on le voit bien aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Et la petite Calédonie, toute seule là entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, elle est prise dans cette évolution. Et moi, je vois que beaucoup de choses ont changé depuis l'élection de Trump. C'est clair que ça a changé. Et en plus, Trump, lui, c'est pas Valls. Hein. Lui, il dit, il fait tout de suite. Hein. Il dit et il fait dans la minute. Hein. Il fait. Voilà. Alors, on a entendu parler d'une invitation de Poutine à Moscou avec le président chinois. Puis le président chinois, il a dit oui. Qu'il allait venir le 9 mai, voilà, la date est énoncée. Puis ensuite, la question a été posée à Trump, et Trump, il a dit, très certainement j'y serai. Il n'a pas affirmé qu'il y serait, mais très certainement j'y serai. Sauf que depuis qu'il a dit ça, il a pris des mesures. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire une chose extraordinaire que je pensais que j'allais jamais entendre de ma vie. Il a insulté les Taïwanais, en disant, c'est tous des voleurs, des tricheurs, des ceci, des... Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas d'une guerre, il ne veut pas que les États-Unis aillent se battre pour Taïwan, et ça veut dire que Taïwan, ça y est, c'est parti, ça va revenir aux Chinois, c'est parti. Donc ça veut dire quoi? Le 9, s'ils sont tous les trois, ça va être un nouveau Yalta, ils vont se partager le monde. Alors les Chinois, ils récupéreront le sud-est asiatique, jusqu'où on n'en sait rien, je ne sais pas s'ils iront jusqu'à Singapour, mais enfin bon. Mais enfin, en tout cas, le Taïwan, ça c'est sûr. Le Russe, il prendra là-bas autour de lui, en Europe. Il faudra d'ailleurs que nos Européens se méfient, oui. Et puis ensuite, Trump, il va récupérer l'Amérique du Sud. C'est ce qu'il veut, parce qu'il y a trop de Chinois et il y a trop de richesses. Et puis le Pacifique, bien sûr. Et nous, là-dedans, on est entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on va être sous le parapluie américain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est toujours pareil pour la Calédonie. Il y a des intérêts supérieurs qui nous dépassent. Les Chinois produisent, je vous dis ça à toute vitesse, mais les Chinois produisent quasiment 80% de la production de nickel. Ils annoncent même qu'à partir de 2028-2030, ils n'en auront plus assez. Il y en a où ? En Calédonie, voilà. Sauf que par ailleurs, les Américains ont plus de nickel parce qu'il n'y en a plus aux États-Unis. Il y en a trop peu en Amérique du Sud et il n'y en a quasiment plus au Canada. Et ils ont besoin de constituer des stocks stratégiques. Et pourquoi ? Eh bien parce que demain, c'est pas la guerre, la guerre c'est fini. Dans le monde d'aujourd'hui, là, tel que c'est parti, ça va être fini la guerre. Ça va être la course à l'innovation. Et les Américains ont bien l'intention de prendre des distances avec les Chinois dans la course à l'innovation. Voilà.
L'Europe aussi, elle a besoin de nickel.
Mais pour la course à l'innovation, il faut de l'argent. Les Américains en ont, ils en auront de plus en plus, parce que tous les pays mettent de l'argent là-bas. Et puis il leur faut du nickel. Et Elon Musk a dit à plusieurs reprises qu'il avait un risque de ne pas avoir assez de nickel. Donc voilà, c'est pas l'indépendance association, tout ça c'est ridicule aujourd'hui. Parce que ce qu'il nous dit pas, c'est quand il y aura l'indépendance, Calin qui est socialiste, on va bouffer quoi ? Mais qu'est-ce qu'on va bouffer dans ce pays ? Et il faudrait qu'il nous parle de ça aussi, Valls. Ah, il peut toujours prendre des engagements, ah ben ça oui. Moi je dis que de toute façon, sa présence au gouvernement est limitée dans le temps, ça c'est sûr.
Merci Harold Martin pour cet éclairage et ces observations. Vous restez finalement... Vous restez optimiste et confiant, donc.
Je le suis toujours. La séquence Valls-Talleyrand a commencé à m'inquiéter, mais quand je vois faire, ça m'amuse. C'est le nouveau Pisani.
Ça vous énerve un peu aussi.
C'est le Pisani. Je sais plus qui est président du monde de l'Institut arabe. L'Institut du monde arabe, alors je ne sais plus qui est le président. C'était Jacques Lang. Il est un peu vieux, il y a peut-être une place pour Valls, oui. Voilà.
La fin de ce magazine Transparence. Merci à Harold Martin d'y avoir participé.